Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui va nous conduire à la découverte de la 25e édition du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière qui se tiendra le 14 mars prochain à Bercy pour à la fois cette nouvelle édition mais aussi son premier grand anniversaire, le 25e. Pour parler de la nouvelle nomination de cette nouvelle édition, je reçois Michel Bon. Bonjour Michel Bon.
Bonjour.
Président du grand jury du prix Turgot et qui se montre très satisfait de la qualité de cette nouvelle promotion de nominés.
Oui, écoutez, ce sont des livres qui sont assez stimulants. Évidemment, tout tourne un peu autour de la crise, ça c'est normal. Mais c'est des approches très différentes et puis c'est en général plus positif avec des solutions que chagrin.
Alors, donc, nous allons passer en revue chacun de ces ouvrages avec donc cette année encore deux duos d'auteurs et trois auteurs à titre individuel que le grand jury a rencontrés et donc sur lesquels vous pouvez donner quelques éléments de compréhension sur les thèmes qui ont été développés. Alors, on rappelle ces noms, Michel.
Oui, donc il y a cinq ouvrages. Le premier, c'est André Orléans, L'Empire de la Valeur, Hubert Rodary, Dettes et Monnaies de Singe, Jean-Louis Gombeau, La Crise de 100 ans, Antoine Brunet et Jean-Paul Guichard, La Visée hégémonique de la Chine, et enfin Jean-Michel Severino et Olivier Rey, Le Grand Basculement. Alors, on peut commencer peut-être par le premier, si vous voulez. Tous, donc, je le disais, tournent autour de la crise. Prenons par exemple le livre d'Hubert Rodary, « Dettes et monnaies de singe », qui est aux éditions Salvatar. Hubert Rodary, c'est un chef d'entreprise. Il dirige une affaire financière, mais c'est manifestement un très bon économiste. Et alors, il s'interroge au fond sur ce qui est une des manifestations les plus évidentes de cette crise, c'est-à-dire ces montagnes de dettes que nous avons tous accumulées, États, entreprises, particuliers aux États-Unis ou dans d'autres pays. En se demandant, mais comment est-ce que c'est possible qu'on ait accumulé de telles dettes? Et alors, il développe, à partir d'une analyse économique très solide, il développe une thèse de ce qu'il appelle l'abolition du temps. C'est-à-dire que, par différents mécanismes, notamment la sophistication mathématique de la finance contemporaine, on est arrivé à abolir le temps, à le rendre indifférent, à le supprimer comme facteur de risque. C'est un peu contre-intuitif, puisqu'on voit bien tous dans nos vies quotidiennes que c'est le temps qui nous mène à la mort. Mais non, c'est vrai, la finance semblait avoir surmonté le temps. Et donc, c'est l'une des thèses de son livre. Il dit, non, le temps existe et il faut jouer avec lui sérieusement.
Abolir le temps et oublier le risque, hein, quelque part aussi. Ce qui est, les deux étant peut-être...
C'est une conséquence de l'abolition du temps. À partir du moment où tout devient, d'une certaine façon, instantanéité, on a aboli le risque. Le risque vient de l'usure du temps. À l'instant où on prend même la décision, il n'y a pas de risque si l'on ne prendrait pas la décision. Donc cette abolition du risque est une des conséquences de la chose, quoi. Mais évidemment, l'abolition du risque est aussi une vue de l'esprit. Le risque existe et existera toujours.
Et on voit bien d'ailleurs qu'il refait surface, ce risque. Bon. Alors, donc, l'ouvrage de Hubert Rodary aux éditions Salvator, « Dettes et monnaies de singes ». Ensuite, donc, dans l'ordre, c'est...
Disons, dans le même ordre d'idées, il y a le livre de Jean-Louis Gombeau, « La crise de 100 ans ». Jean-Louis Gombeau, qui est aux éditions...
Economica.
Economica. Jean-Louis Gombeau est assez connu du grand public. Il est chroniqueur à la radio. Il écrit dans des journaux. C'est un des très bons journalistes économiques français. Alors, lui développe une thèse qui n'est pas à proprement parler originale, mais qui est très bien étayée, qui est de dire, vous savez, les crises... On nous bassine les oreilles avec ça, mais enfin, il y en a eu énormément tout au long de l'histoire. Alors, il décrit les crises les plus récentes, 73, etc. On en a déjà vécu quand même sur les 40 dernières années, déjà un certain nombre, quoi. Mais il va beaucoup plus loin dans l'histoire et il en tire une espèce de philosophie consistant à dire, d'une part, les crises, c'est ce qui se produit quand finalement on s'enrichit, donc on roupille un peu, et puis paf, bon. Mais aussi une théorie sur... le fait que cette succession de crises, tout au long de l'histoire, il remonte à l'Empire romain, donc de façon assez étayée d'ailleurs, ne nous a pas empêchés de faire des progrès de façon continue. Alors, évidemment, il y a quelques points qui paraissent un peu plus bas, mais in fine, toutes ces crises produisent quelque chose. Donc, il a un mélange assez détonnant de pessimisme assez noir, je veux dire, mais aussi de dire, après tout, bon, c'est vrai que ça ne va pas aller fort, mais in fine, tout ira mieux, quoi.
Alors, en fait, évidemment, Gombeau rappelle ce qui est bien connu des analyses du capitalisme, c'est que son développement de ce capitalisme ne se fait que par des ruptures et des crises. Alors, cela étant, effectivement, les dernières que nous venons de connaître sont peut-être un peu plus fortes et en tout cas un peu plus lourdes de conséquences que celles qu'on a connues. Et c'est là, effectivement, où il fait un lien avec l'histoire et tout particulièrement avec ce qu'on a connu avec l'Empire romain ou les autres empires qui, un jour ou l'autre, notamment l'Empire chinois, a disparu.
Vous avez raison, il parle d'une certaine façon de la destruction créatrice.
C'est ça, de Schumpeter. Très bien. Alors, voilà pour Gombeau, donc nous avons dit, la crise de 100 ans, Jean-Louis Gombeau, chez Economica.
Alors ensuite, nous avons un livre très, très fondateur, je dirais, plus théoricien, disons, mais très fort, très solide, d'un de nos grands économistes d'ailleurs, qui est André Orléans, qui est aux éditions du Seuil, qui s'appelle « L'Empire de la valeur ». Et donc, lui amène d'une part un ouvrage assez dense qui conduit pas à pas vers la réflexion vers laquelle il souhaite amener son lecteur, qui est la suivante. Au fond, nous avons tous dans l'idée que la monnaie est la fille de l'échange. Au départ, on faisait du troc, et puis un jour, on a eu l'idée assez intelligente de remplacer ça par de la monnaie. Bon. Et que c'est finalement donc la monnaie qui exprime la valeur. Et lui remet en question cette interrogation et il dit « Mais au fond, non, la valeur, c'est autre chose que cela. Et nous commettons une erreur terrible en nous fiant uniquement à la valeur monétaire des choses. La valeur a beaucoup d'autres ressorts. Il développe de mains exemples. Par exemple, la valeur affective de certains biens n'a pas de valeur monétaire, mais elle existe pourtant. C'est une réalité, etc. »
La croyance, en quelque sorte.
Voilà. Et donc là, on est vraiment dans un livre qui est un peu à la confluence de la philosophie, de la sociologie et de l'économie, et qui, en même temps, est aussi plein d'explications à la crise actuelle. Parce que si, effectivement, la monnaie devient l'alpha et l'oméga de tout, alors on peut comprendre qu'il y ait ces débordements, ces excès, etc.
Oui.
Donc, c'est un livre de fond, quoi. Et je pense que c'est un économiste très reconnu. Je pense que c'est pour lui, il a écrit sûrement de nombreux livres. Je pense que pour lui, c'est vraiment un livre un peu fondateur, quoi.
Tout à fait. Enfin, et puis c'est une des première remise en cause, on va dire, de la théorie économique à la lumière de la crise. Jusqu'à présent, les économistes s'interrogent sur les causes et les conséquences des deux grandes crises récentes que nous avons connues. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu, à part cette théorie de André Orléans, de remise en cause fondamentale de cette science que certains considèrent comme molle, qui est la science économique. C'est une des premières remises en cause. Alors, on est encore au niveau théorique et au niveau pratique, on ne voit pas très bien jusqu'où ça peut conduire. Mais André Orléans est, d'après ce que j'ai compris, donc quelqu'un qui considère que les frontières entre l'économie et la dimension sociale sont en train de plus en plus de tomber, en quelque sorte.
C'est tout à fait ça. Je pense qu'en effet, il a une approche, on dirait radicale, c'est-à-dire s'intéressant à la racine des choses de la crise économique, alors que beaucoup d'autres, voyant des dérèglements, analysent ces dérèglements et proposent des moyens d'y remédier. Lui va un cran plus profond, je dirais, quoi, oui, dans le traitement.
Alors, c'était donc André Orléans, L'Empire de la valeur aux éditions Le Seuil.
Alors ensuite, nous avons deux livres qui, d'ailleurs, sont un peu en contradiction l'un et l'autre, et c'est assez intéressant de ce point de vue. Le premier s'appelle « La visée hégémonique de la Chine », qui est rédigé par Antoine Brunet et Jean-Paul Guichard aux éditions L'Harmattan. Antoine Brunet est un économiste de banque, Jean-Paul Guichard est un universitaire, et ils ont une thèse qui est très forte, très solidement charpentée, très bien démontrée, qui est qu'en gros, la Chine est la cause de tous nos maux, quoi. En ce sens que les Chinois ont, de façon consciente, organisé un déséquilibre de leur monnaie par rapport au reste du monde, de façon à progressivement installer leur emprise industrielle sur le monde entier. Et leurs conclusions ne sont pas très optimistes, je dois dire, pour nous, parce que leur conclusion est en gros que si on ne réagit pas, et réagir, ça veut dire quand même en gros taper sur la Chine, pas militairement, je l'espère du moins, mais enfin au moins économiquement, eh bien, ça se terminera très très mal pour l'Occident. Et ils évoquent de façon brillante ce qui s'est passé lorsque le Japon a lui aussi menacé
l'Occident,
ouais. Les États-Unis principalement, et où les États-Unis ont réagi brutalement pour les mettre au pas d'une certaine façon. Simplement, eux pensent que les États-Unis ne veulent pas mettre la Chine au pas parce qu'au total, ils en profitent beaucoup, quoi. Donc, c'est cela qui leur donne une vision assez pessimiste en disant, au fond, ils vont continuer à avancer masqués suffisamment longtemps jusqu'au jour où ben voilà, leur puissance sera là et s'imposera à nous, quoi. C'est un livre dérangeant, je dirais. C'est-à-dire que leur thèse n'est pas une thèse tellement répandue. Elle est très bien charpentée, très bien démontrée. Enfin, on n'en sort pas indemne de ce livre, quoi. Même si on n'est pas forcément d'accord avec les conclusions, on se dit, il y a quand même un truc là, oui.
Ouais. Et donc, en fait, c'est force, si j'ai bien compris, de mettre à nu la visée hégémonique de la Chine qui semble, d'après eux, tenir compte des échecs précédents d'autres empires qui ont essayé de challenger l'Occident, à savoir le Japon, comme vous le disiez, mais aussi l'Union soviétique. Et en évitant de refaire les mêmes erreurs, à savoir de se placer sur le plan dogmatique ou d'attaquer frontalement ce qui était la chasse gardée des États-Unis, à savoir les grandes entreprises internationales. Et,
oui.
Et donc, il semblerait, ce que disent Brunet et Guichard, qu'en fait, une des logiques de cette stratégie chinoise, c'est d'avoir introduit un cheval de Troie dans l'économie occidentale à travers les firmes capitalistes internationales qui, elles-mêmes, à ce moment-là, sont des alliés objectifs de la Chine. Donc, comme vous le dites, c'est extrêmement dérangeant,
oui.
Avec des conclusions.
Mais le point que vous évoquez n'est pas le point que je trouve le plus convaincant, en ce sens que je pense, j'ai peut-être tort, hein, mais j'ai beaucoup de mal à concevoir un pays de plus d'un milliard d'habitants où tout serait parfaitement conçu, organisé, dirigé minutieusement, sans erreur, de façon continue. Je veux dire, ça me paraît un type d'organisation totalement inaccessible à l'homme. On voit bien que les décisions, en général, même les plus importantes, se prennent dans le bruit, la fureur, l'improvisation. Je ne vois pas pourquoi il en irait beaucoup autrement en Chine. Enfin, le résultat peut donner l'impression, effectivement, de tout un plan qui est déroulé magnifiquement, si vous voulez. Alors, en revanche, je pense à leur analyse sur le dernier point que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'étrange silence des grandes puissances face à cette montée de la Chine est extrêmement pertinente. Quand les Japonais envahissaient nos marchés avec tous leurs produits, Sony, etc., c'est nos entreprises qui étaient contrées par des entreprises qui leur ressemblaient et qui étaient meilleures qu'elles.
Tout à fait.
Donc là, ils ont réagi. Tandis que les Chinois, non, ce sont de petits sous-traitants, vous savez, on va vous aider. Et effectivement, ils aident énormément puisqu'ils permettent d'avoir des composants d'un produit qu'on continue à assembler, donc qui porte sa marque bien occidentale, à des prix ahurissants. Tellement ahurissant, d'ailleurs, que le consommateur ne s'en rend pas compte totalement. Et donc, l'entreprise capte au passage une partie du profit. Et ça, je pense, c'est fondamentalement vrai. Je crois que les grandes entreprises multinationales, par exemple, tout au moins celles qui peuvent faire voyager leurs produits, ont beaucoup profité de la montée en puissance de la Chine et ont donc été très silencieuses sur le sujet.
Oui. Et donc, un ouvrage qui dérange ou qui décoiffe, comme disent les jeunes aujourd'hui,
oui.
En tout cas qui pousse à la réflexion.
Alors, le dernier ouvrage, c'est celui de Jean-Michel Severino et de Olivier Rey aux éditions Odile Jacob, « Le grand basculement ». Alors, lui, je ne dirais pas qu'il prend le contre-pied, pas du tout, mais au fond, ils partent de l'idée que ce qu'on appelle la mondialisation a produit un développement économique inimaginable. Que pendant des décennies et des décennies, Jean-Michel Severino dirigeait l'Agence française de développement, Olivier Le Rey était aussi un spécialiste de l'économie du développement, il y avait toutes sortes de grands savants, grands professeurs, grands hommes politiques qui avaient des tas d'idées pour faire le développement du tiers-monde et rien ne se passait, au contraire, ils s'enfonçaient dans la misère. Bon. Et puis, la mondialisation est arrivée à sortir de la misère, sans doute au moins 2 milliards de personnes, chose dont même les
plus optimistes,
les plus optimistes ne rêvaient pas, si vous voulez. Bon. Alors, ils commencent par se dire, ben, c'est quand même formidable, ce truc-là. Alors, simplement, ils voient bien, parce que tout le monde peut le voir, que ça crée quand même des petits déséquilibres de ci, de là. Ça ne facilite pas la vie de tout le monde non plus. Tout le monde n'en profite pas non plus. Et donc, leur livre, c'est surtout cela. C'est d'essayer de montrer, au fond, cette chose magnifique. Le monde se développe, les pauvres s'enrichissent. Comment est-ce que l'on peut faire pour que ça ne crée pas des déséquilibres tels que tout ce système s'effondre un jour sur lui-même ou bien crée des contre-mesures qui le tueront, comme par exemple un nouveau protectionnisme, etc. C'est un livre très convaincant, je trouve, qui va dans le détail. C'est pas un livre de militants un peu bêlants du tiers-mondisme, comme on en a eu autrefois. Non, pas du tout. Ce sont des gens sérieux, posés, qui savent de quoi ils parlent et qui sont, je trouve, assez convaincants. Et alors, il conclut donc, un peu à l'opposé, effectivement, du livre sur la Chine, que, au contraire, la Chine, c'est magnifique. Ils ont fait exactement ce qu'on leur a dit de faire pour se développer. Ils sont arrivés. Alors, profitons-en, appliquons-le à d'autres pays. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, en revanche, il faut que nous, on s'occupe de faire d'autres choses. Mais il faudrait qu'on s'applique à faire mieux la mondialisation plutôt qu'à la détricoter. C'est ça, leur grande leçon. Faisons mieux la mondialisation.
Remondialiser.
Voilà. D'accord.
Très bien. Alors, voilà, on a vu à travers cette présentation très riche la qualité assez remarquable de cette nouvelle promotion de nominé. Donc, le palmarès sera prononcé le 14 mars à Bercy, après que le grand jury qui est placé sous votre présidence, Michel Bon, en aura délibéré. Un grand jury dont je rappelle la qualité exceptionnelle, qui est composée à la fois d'économistes, de chefs d'entreprise, mais aussi d'universitaires et de représentants, des partenaires officiels du prix Turgot, fidèles partenaires, dont je rappelle brièvement les noms, le groupe Crédit Agricole, le groupe Coleridge & Valmore, l'IFG et l'IFI, Temenos, la DFCG, le groupe Viel et compagnie, bien entendu, Europlace et la Fédération française bancaire, ainsi que le Forum francophone des affaires, ce qui me permet de rappeler que, au-delà du palmarès de cette nouvelle et grande édition, il y aura, comme les années précédentes, deux prix spéciaux qui seront décernés. Un prix pour les ouvrages collectifs, hein, puisque le prix principal touche plutôt à des auteurs individuels, au maximum en duo, et un prix donc de la francophonie en partenariat avec le Forum francophone des affaires qui est présidé par le président Steve Gentilly. Alors, voilà donc un grand rendez-vous qui est devant nous. Seront décernés ce jour-là, donc le 14 mars, puisqu'il s'agit du 25e anniversaire, deux grands prix d'honneur. Je rappelle qu'un seul grand prix a été décerné d'honneur jusqu'à présent et c'est M. Jean-Paul Bettebez qui en avait bénéficié. Donc pour ce 25e anniversaire, deux grands prix d'honneur seront décernés. L'un pour un auteur à titre individuel pour l'ensemble de son œuvre et un pour donc des auteurs à titre collectif. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur le sujet. Michel, peut-être un mot de conclusion. Donc vous êtes heureux de cette nouvelle promotion qui en fait recouvre assez bien les turbulences que nous connaissons et les interrogations que nous avons sur l'avenir.
Oui, je trouve que ce qui est intéressant dans ce choix de livres, il y en a cinq, c'est la complémentarité de leurs approches de la crise. Tous nous parlent de la crise, c'est raisonnable, on ne va pas aller parler d'autre chose actuellement, alors que les économistes sont un peu montrés du doigt quand même sur leur difficulté à avoir prévu ce qui se passe. Tous nous parlent de la crise, ils le font chacun avec son regard, son approche, qui sont toutes assez différentes. Et au total, pour ceux des auditeurs qui auront le courage de lire ces cinq ouvrages, eh bien, la complémentarité des approches est assez stimulante, je dois dire.
Bien, voilà, écoutez, merci pour cette présentation très claire de cette nouvelle nomination. Rendez-vous donc pour nos auditeurs après le 14 mars pour la proclamation du palmarès qui se fera à Bercy, au ministère de l'économie et finances, et on l'espère, en présence du ministre. Merci Michel Bon.
Merci beaucoup.
À l'année prochaine. Merci.